France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir, sur les prud'hommes, la justice du travail, celle qui tranche les différents entre salariés et employeurs. La loi Macron a récemment réformé leur fonctionnement, la manière dont on peut saisir ces prud'hommes, l'accélération des procédures, la conciliation quand elle est possible en amont, le plafonnement des indemnités, un temps contraignant n'est plus qu'indicatif. Vos questions ce soir sur le fonctionnement de ces prud'hommes comme institution, mais aussi sur les aspects les plus pratiques, comment les saisir, dans quel cadre, avec quel délai. À vous de jouer, vous avez la main, vous avez la parole, amis auditeurs de France Inter.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé TELSON. Trois moyens pour nous joindre. Marie a choisi le téléphone. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez d'Auvergne et nous vous écoutons.
Oui, alors bonsoir messieurs. Je suis passée en conciliation prud'homale début janvier suite à un licenciement que nous jugions avec mon avocat abusif. Mmh. Donc la conciliation a dû durer entre 5 et 7 minutes. Il n'en est rien ressorti parce que les deux parties n'étant pas d'accord, on le savait d'avance. Donc, il a été décidé que ça serait reporté fin octobre. Voilà, c'est tout.
Ça a commencé quand, cette procédure devant les prud'hommes, Marie ?
Le licenciement a été effectif fin novembre. Donc, bon, c'était pas très long. Mais ce qui est long, c'est donc les 8 mois pour le report de cette première conciliation. Ça ne sert à rien. Puisque les deux parties n'étant pas d'accord, on savait ce qu'il allait se passer.
Et en attendant, vous avez été, si vous me passez cette expression familière, sorti de votre entreprise.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, ce qui est long, c'est on ne peut pas passer à autre chose et sachant que ça risque, ça va passer certainement en appel après, donc. Si vous voulez, il va y avoir encore des mois et des mois après. Donc, pourquoi est-ce aussi lent? Pourquoi on encombre le tribunal pour rien? Puisque ça n'a servi strictement à rien. Et pourquoi est-ce aussi long?
Bonne question. Merci beaucoup, Marie, pour vous répondre. Maud Beckers, bonsoir.
Bonsoir.
Avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, spécialiste du droit social. Michel André, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le président du Conseil des Prud'hommes de Nanterre Collège Employeur. Qui veut répondre à Marie?
Écoutez, moi je peux y répondre peut-être en premier. Le problème que vous soulevez, madame, c'est bien évidemment le problème qui affecte très considérablement les juridictions prud'homales dans leur ensemble, qui est le problème des délais. Délais qui ont été jugés d'ailleurs déraisonnables à plusieurs reprises par les juges du tribunal de grande instance de Paris, puisque l'État a été condamné pour déni de justice à plusieurs reprises.
Déni de justice.
Déni de justice, qui est extrêmement grave pour une démocratie comme la France, puisqu'on sait très bien que la justice est un des piliers fondamentaux de la démocratie et la justice.
C'est au bout de combien de mois le déni ou d'années?
Alors écoutez, ça dépend un petit peu de la procédure, puisque en fonction de la procédure ou des domaines du droit, il y a des délais des fois légaux qui sont prévus et qui sont systématiquement violés. Par exemple, je vous donne un exemple. Pour passer en départage, c'est-à-dire entre le bureau de jugement et un juge départiteur, le code du travail prévoit 1 mois. Et par exemple, en section commerce à Bobigny, nous sommes actuellement sur des délais de 24 mois. Donc nous sommes sur des délais extrêmement importants et que je vous cite le conseil de prud'homme de Bobigny, mais je pourrais bien évidemment en citer beaucoup plus. Donc les juridictions sociales sont des juridictions pauvres et il faut savoir donc que c'est la raison pour laquelle il y a eu des procès d'ampleur, notamment procès d'ampleur organisés par le syndicat des avocats de France, un en 2011 et un très récemment, en 2015-2016, pour faire condamner l'État. Et attention, je dis bien l'État, car il n'est pas question de faire le procès des prud'hommes, mais bien le procès de l'État qui ne donne pas les moyens nécessaires aux prud'hommes pour fonctionner. Hein.
Le salarié, qu'advient-il de lui ou la salariée? En l'occurrence, c'était Marie qui nous appelait pendant ces délais très longs.
Ah, mais les salariés pendant ces délais très longs attendent malheureusement. Il ne se passe rien entre le moment, par exemple, où ils rencontrent un juge en bureau de conciliation et le bureau de jugement, si ce n'est l'échange des argumentations et des pièces entre avocats. Et pendant ce temps-là, ils attendent en effet souvent dans une souffrance psychologique et pécuniaire, hein, parce que évidemment, souvent, ce sont des salariés qui sont licenciés, qui ont perdu leur emploi dans des conditions relativement majoritairement abusives et qui attendent de la décision du prud'homme et également une réparation matérielle qui leur est importante.
Michel André, président du Conseil des prud'hommes de Nanterre Collège Employeur.
Oui, eh bien, il faut quand même tenir compte du délai qui est absolument indispensable entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement. comme vient de le dire Maître Beckers, parce que pendant cette période-là, les parties vont se communiquer leurs pièces. Terril appartiendra d'abord à la partie de Mendrez de communiquer ses pièces à la partie d'Effendrez, ses pièces et ses moyens de fait et de droit, et ensuite à la partie d'Effendrez de communiquer ses pièces et ses moyens de fait et de droit. Mmh. Donc ça demande effectivement quand même un certain temps. Mais enfin, quand on regarde ce que vient de dire l'auditrice, c'est un délai relativement court entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement qui aura lieu au mois d'octobre. C'est un délai court. Je suppose que c'est un conseil de province, puisque...
Elle appelle les d'Auvergne, Marie.
D'Auvergne, donc c'est un conseil de province. Il est évident que dans la région parisienne, les délais sont beaucoup plus longs,
notamment... Et une conciliation de 7-8 minutes, ça vous semble tout à fait normal, s'il n'y a rien à concilier? Ou ça devrait quand même prendre un peu plus de temps, Michel André, puis Maud Beckers?
Non.
Non, c'est pas normal.
Non, il n'y a rien d'anormal. À partir du moment où on s'aperçoit, les conseillers s'aperçoivent qu'il n'y a aucune possibilité de conciliation entre les parties, ça ne sert strictement à rien de
que ça dure
de perdre
sans
du temps.
Maud Beckers?
Oui, le problème, c'est que ça devrait servir à quelque chose, le bureau de conciliation. C'est-à-dire que si on veut sauver notre juridiction prud'homale, il faut faire en sorte que cette conciliation serve à quelque chose. Or, quand vous avez des juges qui sont envahis de dossiers, qui doivent passer, ils doivent examiner 15 dossiers sur, par exemple, au conseil de prud'homme de Bobigny ou de Paris, on a 10 à 15 dossiers qui sont audiencés sur la même matinée ou la même après-midi. Donc, il faut faire en sorte que ces audiences puissent servir à quelque chose. Et la seule façon de faire en sorte que ces audiences puissent servir à quelque chose, c'est de les démultiplier. Et pour les démultiplier, il faudrait que les juges aient 4 ou 5 dossiers à juger. Il faudrait donc plus de greffiers pour tenir ces audiences. Et il faudrait également réformer la procédure. Le décret Macron qui va être applicable à partir du 1er août 2016, a saisi certaines pistes qu'on lui avait proposées, mais pas l'intégralité
des pistes. Sur la conciliation, hein.
Alors, sur la conciliation, justement, nous, au syndicat des avocats de France, on revendiquait depuis longtemps à ce que la conciliation serve à quelque chose. Or, la conciliation ne peut servir à rien si nous sommes avocats des parties à dossier fermé. Nous devons nous communiquer nos pièces en amont du bureau de conciliation et le conseil de prud'homme devrait être au courant de ce qu'il y a dans le dossier de chaque partie avant le bureau de conciliation pour pouvoir les aider à concilier. La procédure actuelle ne le prévoit pas. On arrive en bureau de conciliation, le salarié n'a pas communiqué ses arguments et l'employeur non plus. Donc en effet, il est difficile pour les juges de pouvoir parvenir à un accord entre les parties.
Donc tout le monde découvre les pièces le jour J.
Après le bureau de conciliation, à l'heure actuelle, va fixer une date ultérieure avant le procès, pour que les parties s'échangent leurs pièces. Nous, nous demandions à ce que le demandeur communique ses pièces très rapidement, avant le bureau de conciliation, mais que l'employeur soit également en mesure et qu'on lui ordonne de communiquer les pièces dès le bureau de conciliation. Pourquoi ? C'est extrêmement important. Il faut savoir qu'un salarié, il est peut-être demandeur à une procédure judiciaire, mais il est défendeur à une décision prise par l'employeur, en règle générale, celle de licencier. Donc si l'avocat du demandeur n'a pas, dès le début, les arguments de l'employeur pour pouvoir défendre le salarié, ça ne sert à rien. Et en règle générale, le salarié va apprendre les arguments de l'employeur la veille de son audience de bureau de jugement, ce qui va être à l'origine de report.
Souvent. Michel André ne semble pas d'accord avec vous, je lui donne la parole et je la donne ensuite à Thierry qui nous appelle de Montauban.
D'accord, merci. Non, parce que ce qu'expose Maître Becker, c'est ce qui va se passer jusqu'au 31 juillet. Parce qu'au 1er août de cette année, la loi Macron a mis en place une procédure qui est totalement différente de celle qui existe aujourd'hui, à savoir que le demandeur devra, lorsqu'il saisira le Conseil des prud'hommes, devra obligatoirement communiquer ses pièces avec un bordereau de pièces et une note succincte reprenant ses moyens de droit et de fait. Donc, ces pièces seront communiquées au Conseil, vont être communiquées à la partie adverse. La partie adverse devra également, de son côté, communiquer ses pièces et ses moyens. Et lorsque nous serons en bureau de conciliation et d'orientation, car le bureau de conciliation s'appelle dorénavant depuis le 7 août, depuis la loi Macron, un bureau de conciliation et d'orientation, et nous serons donc à notre disposition pour la conciliation notamment, nous aurons les pièces et les moyens.
Ce n'est pas Thierry à qui nous allons donner la parole tout de suite, mais dans quelques instants. D'abord Delphine de Dordogne, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bonsoir, merci. Voilà, moi je suis en procédure contre mon ancien employeur et je voulais juste faire part de ce que je vis actuellement. En fait, c'est pas la lenteur des tribunaux qui me pose problème, c'est plutôt les accords de déontologie entre les avocats, en fait, des différentes parties.
Expliquez-nous.
En fait, j'ai été licenciée en mars 2015, passée en conciliation en fin avril 2015. Le tribunal de Périgueux a proposé des dates qui étaient largement correctes, la première étant début juin. La conciliation n'a rien donné. Hein. Et en fait, les avocats des deux parties, y compris le mien, ont demandé une date bien plus lointaine.
Et pour quelle raison ?
Parce que pas le temps de traiter les dossiers. Donc on a atterri fin septembre, ça a été renvoyé à mi-décembre, puis début mars et finalement fin avril. Donc fin avril dernier là, on est juste passé pour plaider pour la première fois. Et ça n'a rien à voir avec les tribunaux.
Ça a à voir avec les avocats, vous entendre.
Oui, tout à fait.
Systématiquement, disiez-vous.
Les avocats ont renvoyé, ont prévenu qu'ils feraient une demande de renvoi quasiment la veille pour le lendemain. Moi, je passais systématiquement le lundi et le vendredi, l'avocate de la partie adverse prévenait qu'elle allait demander le renvoi pour X raisons. Et chaque fois que j'expliquais à mon avocat qu'il fallait plaider parce qu'on était prêts, mon avocat m'expliquait que déontologiquement, ça se fait pas trop. Voilà, il faut plaider avec une partie adverse qui est en face et pas sans elle. Mais en attendant, depuis un an et demi,
vous attendez. En attendant, vous attendez. Merci Delphine pour ce très intéressant témoignage que je soumets instantanément à Maud Beckers, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, spécialiste du droit social. Voilà une pierre dans votre jardin, enfin en tout cas dans le jardin de votre profession.
Oui, alors...
Vous lambinez comme ça ?
Alors, personnellement, non. Et la plupart des avocats que je connais du syndicat des avocats de France, non. C'est pas normal, en effet, d'être confronté à un avocat qui ne va pas réussir à se mettre en état dans les délais qui lui sont imposés. Évidemment, si on cherche des comportements qui ne sont pas ceux que doivent tenir un avocat, on va en trouver. Et bien évidemment, vous allez avoir des auditeurs qui vont se plaindre du comportement de leur avocat.
On les choisit pas, hein.
Oui,
ils appellent au 01 45 24 7000.
Mais c'est évident qu'il y en aura. Moi, ce que je cherche à faire passer comme message, c'est que sur les 71 dossiers que nous avons gagnés en 2011 et les 300 dossiers qui vont donner lieu à condamnation là, qui ont déjà donné lieu à condamnation entre 2015 et 2016, vous comprenez bien que les juges, avant de condamner l'État français à des dénis de justice qui va mener à une condamnation globale très importante, vont évidemment examiner chaque dossier et vont voir si ce sont les avocats qui sont responsables des délais ou si c'est malheureusement le Conseil de prud'homme qui ne peut pas faire face au flux. Général, c'est quand même...
D'accord, mais quel conseil donneriez-vous à Delphine pour gérer sa propre relation avec son avocat ? Lui dire, dépêchez-vous,
La déontologie, ce n'est pas d'accepter n'importe quel renvoi, n'importe quel motif. La première déontologie de l'avocat est de défendre efficacement son client et de ne pas faire passer, en effet, les relations entre avocats avant celles de son client. Il n'y a que de très rares occasions, moi en ce qui me concerne, dans lesquelles j'accepte de les renvois qui sont sollicités par les employeurs. En règle générale, quand je sollicite un renvoi, c'est pour la raison suivante. Je reçois les pièces adverses la veille du procès. Et c'est pour ça, monsieur le président disait tout à l'heure... monsieur le président André indiquait le décret Macron va tout changer parce que le salarié est obligé de communiquer en abond du BC et l'employeur est obligé de communiquer au BC. Mais non,
Bureau de
conciliation. Il n'est pas obligé de communiquer au niveau du bureau de conciliation, il est invité à le faire. Et c'est là que le décret Macron loupe complètement sa cible. Il aurait fallu qu'il impose au demandeur de communiquer les pièces dès le début de la procédure, mais également à l'employeur qui doit justifier le licenciement. Quand un employeur licencie à un moment donné, il doit normalement avoir toutes les pièces pour justifier ce licenciement à un moment donné. Il n'y a aucune raison de lui laisser de longs mois pour produire ses pièces la veille de l'audience. Et c'est là qu'il y a des renvois.
Président André, vous avez la parole.
Oui, merci. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec votre auditrice. Il faut savoir que 42% des affaires sont renvoyées ou radiées. C'est-à-dire que dans une audience de 10 affaires, il y a plus de 4 affaires qu'on ne pourra pas entendre parce que les dossiers ne sont pas en état d'être plaidés. Parce que les avocats, et notamment les avocats en demande, contrairement à ce que dit Maître Beckers, beaucoup en demande communiquent leurs pièces trop tardivement, voire même la veille d'une audience, même dans des délais relativement longs, puisque à Nanterre, nous avons la section encadrement, les délais peuvent atteindre 36 mois entre la saisine et le bureau de jugement. Mmh. Eh bien, malgré ces 36 mois, il y a des 42% de renvoi et de radiation.
Thierry, vous voilà. Nous vous donnons la parole. Enfin, mille excuses pour l'attente. 18 minutes au standard de France Inter. Nous avons les oreilles ouvertes et nous vous écoutons.
Oui, donc j'avais appelé parce que je suis moi-même conseiller prud'homme, collège employeur, conseil de prud'homme de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Et bon, tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant est vrai. Sur le fait que la loi Macron, effectivement, loupe sa cible dès le niveau de la loi, puisqu'elle a fixé, effectivement, un nouveau bureau de conciliation et d'orientation qui est supposé nous permettre d'aller plus vite en fixant, selon la nature du litige, des délais pour statuer, mais qui ne seront pas plus respectés que ceux du départage, puisque ça dépend, évidemment, des parties pour qu'elles soient prêtes pour que le tribunal puisse, enfin, ou le conseil puisse statuer. Mmh. Sur le fait qu'effectivement, le précédente a parfaitement raison. Les trois quarts des problèmes, hormis ce qu'a dit le président du conseil de Nanterre, je crois, entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement qu'il a, est directement lié à la saturation de la juridiction. Les délais qui sont constatés sont liés, en tout cas chez nous, au défaut de diligence des avocats ou des parties. Représenter ou pas représenter ou assister ou pas assister. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a très clairement un délai de 6 mois entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement. Il peut être ramené à 4 mois s'il y a déjà eu une communication de pièces qui a été faite en amont. Mmh. Mais à l'échéance des 6 mois, dans 90% des cas, les parties ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes. Je dirais les torts sont partagés à 50% entre le demandeur et le défendeur, entre le salarié et l'employeur. En général, 98% des cas, c'est le salarié qui est demandeur. On a quelques cas où c'est l'employeur. Mmh.
Merci pour ce témoignage, Thierry, qui vient compléter celui de Delphine, notre précédente auditrice. Tort très partagé à entendre donc ce conseiller prud'homme, Maud Beckers.
Écoutez, il suffit de regarder, d'avoir une analyse logique de la situation. Qui saisit le conseil de prud'homme? En règle générale, dans la majorité, on va dire dans 99% des cas, je crois que les taux sont même au-delà, c'est le salarié. Le salarié n'a aucune bonne raison de faire traîner son procès. Le salarié est celui qui attend psychologiquement une décision. C'est celui qui attend pour pouvoir vivre, avoir des créances alimentaires, une décision. Donc, il est logique que le salarié soit en état rapidement. Par contre, un employeur, lui, a tout intérêt à ce qu'un procès traîne. Pourquoi ? Pour deux raisons. Quand c'est une grosse entreprise, il provisionne les sommes et au bout d'un certain nombre d'années de litige, évidemment, la condamnation sera plus facile à supporter pour l'entreprise. Quant aux petites entreprises, je le vois notamment sur la Seine-Saint-Denis, où il y a une multitude de petites entreprises, notamment la sécurité, le bâtiment ou la confection, eh bien on assiste à des fraudes. Les délais permettent de fermer frauduleusement les entreprises pour que finalement ce soit l'assurance garantie des salaires qui prenne en charge les sommes qui sont dues aux salariés. Donc objectivement, ceux qui profitent des délais, ce sont les employeurs et ne pas les salariés. Alors après, on peut trouver des comportements individuels d'avocats qui ne font pas leur travail et donc de personnes qui vont être mécontentes et qui vont s'en plaindre, et elles ont raison. Mais le système est globalement fait pour que finalement les délais intéressent plus les employeurs.
Michel André.
Oui, non, je ne peux pas suivre du tout Maître Beckers, parce que, pour tout vous dire, moi j'ai 39 ans de pratique de la prud'homie à Nanterre, et ça fait 16 ans que je préside ou que je vice-préside le conseil. Donc j'ai vraiment une connaissance, je ne veux pas dire parfaite, mais une excellente connaissance de ces problèmes prud'homaux. Et je peux vous dire, et je le disais avant d'ailleurs d'entrer en studio, que dans 90% des cas, s'il y a un retard, c'est dû au demandeur.
Mais quelles sont les statistiques ?
Uniquement dans 90% des cas. Et dans les 10 autres
pourcents des cas. Pourquoi vous dites des choses si différentes alors que vous vivez la même réalité ? Vous êtes dans des postures l'un et l'autre ou pas ?
Absolument pas dans des postures.
Non, je vous pose la question, je ne voulais pas interrompre le président André, mais...
D'où sort les statistiques de 90% de demandes de renvoi de la part des salariés ?
Dites quand même l'un et l'autre rigoureusement l'inverse. Je laisse finir, Michel André.
Je ne parle pas de 90% de demandes de renvoi des salariés. Je dis que dans 90% des cas, les affaires sont soit renvoyées, soit radiées,
oui, mais
parce que le demandeur n'a pas communiqué dans les délais. Le délai qui lui avait été fixé par le bureau de conciliation n'a pas communiqué respecter dans les délais ses pièces et ses moyens de fait et de droit. C'est ça que je dis.
Nolwenn, bonsoir, vous nous appelez du Morbihan.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Nolwenn.
Alors, j'étais d'accord avec ce qui était dit précédemment, en sachant que le respect des délais par les avocats devrait être respecté, c'est-à-dire avoir son dossier la veille du jugement, pour se défendre, c'est beaucoup trop tard. Donc ça a déjà été dit. Donc il faudrait aussi limiter les reports d'audience. Pour ma part, ça a été reporté 4 fois, sans raison valable, uniquement parce que l'employeur n'avait rien écrit de la part de l'avocat. Et sinon, autre chose, il faudrait qu'il y ait des spécialistes de la gestion des payes qui regardent sur le dossier si, par exemple, des rappels de salaire doivent obligatoirement être payés. Par exemple, moi, j'ai pas eu mon 13e mois que je réclamais. Ça, c'était à l'appréciation des juges. Et deuxième chose, j'ai eu mon salaire, le rappel de salaire, enfin, je l'ai eu ce mois-ci. J'aurais dû l'avoir, ce salaire-là, il y a 2 ans. Les charges sociales sont-elles calculées sur ce mois-ci ou il y a 2 ans?
Merci Nolwenn pour l'ensemble de ces questions. Maud Beckers.
Oui, écoutez, il existe déjà des pistes, enfin même des règles dans le code de procédure civile ou le code du travail pour justement faire en sorte que les procédures soient moins longues, mais elles ne sont pas utilisées par les juges prud'homaux. Systématiquement, moi, je communique mes pièces dès le début de la procédure, pour vous donner un exemple, dès le bureau de conciliation. Ça ne m'empêche pas 10 mois ou 2 ans après à Nanterre, puisque quand je défends un cadre à Nanterre, entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement, il y a 2 ans, moi je communique 2 ans auparavant toutes mes pièces et mon argumentation, et je vais avoir les pièces la veille de l'audience. Ce que je sollicite, moi, dans ce genre de situation, c'est le rejet des pièces de l'employeur. S'il n'est pas capable de me justifier un licenciement pour faute grave très rapidement, et en tout cas dans des délais qui me permettent de plaider avec le respect du contradictoire, eh bien les juges prud'homaux devraient rejeter les pièces. Ce sont les dispositions du code de procédure civile. Ça fait 15 ans que je le plaide, parce qu'on se renvoie un peu les anciennetés. Alors moi, j'ai pas 39 ans de pratique, mais j'ai une pratique qui, à mon avis, nécessite également qu'on y prête attention. Moi, systématiquement, je sollicite le rejet des pièces, et lorsque je sollicite le rejet des pièces, les juges ne me suivent pas. Donc évidemment, dans ce type de situation, les salariés que je défends, qui voient une argumentation arriver la veille du procès, vont un certain nombre de fois me demander de reporter le procès pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est bien logique. Cela n'arriverait pas s'il y avait un rejet des pièces adverses. Et peut-être que les employeurs apprendraient ce que c'est le contradictoire si les juges prud'homaux prenaient ces décisions, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Et pourquoi vous ne le faites pas, Michel André?
Attendez, je voudrais répondre à votre auditrice.
Oui, bien sûr, mais enfin, il y a une bonne question là qui vient d'être posée.
Parce que
Président,
dit...
s'il vous plaît, il y a une question qui vient d'être posée. Pourquoi vous ne rejetez pas les pièces ensuite? Évidemment, vous pourrez répondre à notre auditrice. Pourquoi vous ne rejetez pas les pièces?
Pourquoi on ne rejette pas les pièces? On les rejette quand nous devons les rejeter.
Jamais
elles sont
donc
rejetées quand la formation...
Jamais donc,
que
dit Maud
Beckers. Nous sommes 4, de conseillers employeurs, de conseillers salariés. Et lorsque les 4 se mettent d'accord, ou qu'il y a une majorité, puisqu'en fait c'est une majorité, pour un rejet de pièces, les pièces sont rejetées. Il n'y a absolument aucun problème.
Et vous avez des statistiques sur le nombre de fois où ça arrive? Parce que vous avez des statistiques un peu surtout, visiblement, sur celle-ci, vous en avez?
Je n'ai pas de statistiques, mais bon, mais quand nous devons les rejeter, nous les rejetons.
Et le fait que les pièces arrivent la veille ne devrait-il pas être un critère pour les rejeter systématiquement? C'est ça la question qui vous était posée.
Non, c'était pas la question qui était posée.
Non, mais qui vous était posée par Maud Beckers.
Ah oui, qui était posée par Maud Beckers, d'accord. Non, parce que, attendez, les pièces qui arrivent la veille... De la part du demandeur.
Non, du défendeur.
De la part du demandeur. Voilà. Comment voulez-vous que nous puissions juger lorsque, d'une part, comment pouvons-nous juger, mais d'autre part, ça signifie que le défendeur les a aussi reçus tardivement et qu'il n'a pas pu assurer sa défense. Et il doit pouvoir assurer sa défense. Lorsque nous communiquons des dates en bureau de conciliation et d'orientation, nous communiquons les dates de communication par le demandeur et les dates de communication par le défendeur. Il y a bien évidemment un délai entre les deux, ce qui est logique, puisque le défendeur ne connaît pas nécessairement les pièces du demandeur, et vice-versa d'ailleurs. Donc il faut qu'il y ait un délai. C'est absolument indispensable.
Alors, les réponses à Nolwenn du Morbihan?
Alors, la réponse, elle dit parce que les juges, les conseillers ne m'ont pas alloué mon 13e mois. Et elle a eu une petite remarque en disant ils ont décidé que, etc. Il faut savoir que pour pouvoir juger, nous jugeons sur pièce, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une preuve. Si dans les dossiers qui nous ont été, et notamment par elle, qui a été communiqué au Conseil de Prud'homme, il n'y avait rien qui démontrait qu'elle pouvait bénéficier d'un 13e mois, il était normal que le Conseil de Prud'homme ne lui alloue pas le 13e mois. Tout est une question d'appréciation des juges, mais au vu des pièces qui sont produites. Et notamment qui sont produites par la partie demanderesse, lorsqu'il s'agit notamment de salaire. Parce que lorsqu'il s'agit de licenciement, c'est les pièces qui sont produites par les deux parties.
Une question qui nous vient via Twitter. Mon patron me force à faire des absences injustifiées pour me licencier, refus de rupture conventionnelle, que puis-je faire ? Maud Beckers.
Écoutez, il est toujours difficile de répondre à des
surtout
questions.
Surtout que là, c'est lapidaire. Hein.
Oui, c'est assez lapidaire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un employeur est en effet pas obligé d'accepter une rupture conventionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par contre, si on le force à être en absence injustifiée, c'est-à-dire qu'on lui prive de l'accès à son poste de travail, il doit l'acter absolument. Il doit l'acter. Alors, il doit l'acter ou en écrivant des mails, si c'est le mode de communication habituel avec son employeur, ou il doit lui envoyer un courrier, ou il doit envoyer SMS. En tout cas, il doit garder des traces écrites sur le fait qu'il se tient à sa disposition. Parce qu'en effet, c'est une tactique souvent qui est utilisée. Après des ruptures conventionnelles, les employeurs disent, bon, bah, tu n'as qu'à pas venir et puis on te licenciera pour absence. Sauf que des fois, ça ne se passe pas aussi simplement. Ou alors, un employeur empêche l'accès au poste de travail pour après trouver un bon motif pour licencier un salarié pour absence, pour faute grave, pour absence. Donc il faut absolument l'acter. On peut aussi se déplacer sur le lieu de travail avec un témoin extérieur, un collègue de travail ou quelqu'un de la famille pour acter le refus d'accès au poste de travail.
Jean-Éric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Nice et nous vous écoutons.
Oui, voilà, c'était pour témoigner. Moi, je suis employeur et j'ai été confronté à quelques reprises au prud'homme aussi, hein, comme tous les employeurs de PME. Et deux expériences par rapport à la conciliation. Une première fois, il y a 7 ou 8 ans maintenant, on est allé en conciliation. Une salariée nous avait mis au prud'homme. Et la conciliation a permis vraiment de trouver une solution, d'éclairer. Cette personne peut-être avait mal interprété. Et vraiment, voilà, je voudrais témoigner que cette première expérience a été très, très intéressante. Elle nous a permis d'ouvrir un dialogue qu'on avait eu du mal à ouvrir. Et finalement, on n'est pas allé jusqu'au plaidoirie. On a trouvé un accord avant et tout s'est bien terminé. Par contre, il y a eu une deuxième expérience un peu différente. Pareil, nous étions au prud'homme, amenés au prud'homme par une de nos salariés. Et lors de la conciliation, les deux représentants, à la fois patronaux et salariés, ont pris conscience que le dossier de notre salarié était vide et donc on essayait de la raisonner en notre présence que là il y avait rien et on est quand même allé au prud'homme, ça a duré un an et demi finalement, elle n'a pas obtenu gain de cause, mais ce que je voudrais dire c'est que quand lors de la conciliation les deux parties, les deux représentants salariés patronaux constatent que le dossier est vide, quel dommage à ce moment-là de ne pas faire un peu entendre raison à une personne qui demande de manière cette fois un peu abusive de continuer, ça fait des frais, ça fait des délais, ça coûte de l'argent à l'État, à tout le monde, alors que c'est une fin annoncée. Voilà ce que je voulais témoigner en fait.
Très bon et très intéressant témoignage, Jean-Éric. Merci beaucoup, Maud Beckers.
Oui, mais ce monsieur, en fait,
deux moments de conciliation très différents.
Oui, non, mais ce monsieur insiste, en tout cas, quelle que soit l'expérience qu'il tire des deux moments de conciliation, sur l'importance de la conciliation et sur l'importance, donc, pour le Conseil de Prud'homme, de pouvoir bien fonctionner en bureau de conciliation, ce qui signifie des audiences allégées, comme je le disais en début d'émission. Donc, on pensait que dans la réforme Macron, il y aurait des pistes pour pouvoir, justement, permettre au bureau de conciliation de fonctionner. Or, on assiste à quelque chose qui est extrêmement surprenant, c'est que au lieu de réfléchir aux moyens qui permettraient au bureau de conciliation de fonctionner, eh bien, on constate qu'un nouvel article du Code du travail prévoit que, en conciliation, les conseillers prud'hommes qui ont vocation à concilier pourront inciter les parties à aller rencontrer un médiateur. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'on est en train de priver la juridiction prud'homale de son devoir de conciliation au profit d'un médiateur privé qui n'est pas un juriste, qui n'est pas un juge, donc qui n'a aucun degré d'impartialité, et que les parties vont devoir payer. Et ça, c'est très important parce que ça montre un petit peu quel est l'objectif de la réforme Macron, qui est en fait de déjudiciariser un certain nombre de dossiers pour alléger le flux des conseils de prud'hommes, pour éviter finalement de donner les moyens supplémentaires pour fonctionner au conseil de prud'hommes et d'avoir une justice privée en parallèle. Or, comme ce monsieur le dit, c'est extrêmement important que la conciliation fonctionne bien. Conciliation assurée, et j'y tiens, non pas par un médiateur formé 130 heures avec un diplôme d'une université quelconque qui n'est pas forcément un juriste, ou quelqu'un de l'entreprise, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être juriste pour être en bureau de conciliation. Il faut être juge juge un employeur, un salarié, des gens issus du monde du travail, sont les meilleures personnes qui peuvent permettre d'aboutir à une conciliation. Mmh. Donc aidons ce bureau de conciliation à fonctionner.
Michel André.
Oui, alors je voudrais préciser à votre auditeur qu'il y a 6% de conciliation à peu près sur le plan national, qui sont donc réalisées pendant le bureau de conciliation. Mais il y a aussi près de 25% d'affaires qui disparaissent entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement, parce qu'il y a eu des transactions. Mmh. Et une transaction, c'est en fait une conciliation. Donc, grosso modo, il y a environ 30% d'affaires qui se trouvent conciliées. Quant à la médiation, dont parle Maître Beckers, effectivement, la loi Macron a instauré deux types de médiation. Une médiation avant la saisine du Conseil de Prud'homme, et puis une médiation, qu'on va appeler la médiation judiciaire, mais qui pourra se faire au niveau... qui pourra se proposer au niveau du bureau de jugement, mais la loi Macron ne prévoit absolument pas une médiation, la désignation d'un médiateur ou la proposition d'un médiateur pendant le bureau de conciliation et d'orientation. Pendant le bureau de jugement, peut-être, je dis bien peut-être, encore que, en tant que conseiller prud'homme, nous n'y sommes pas favorables, spécialement favorables. Nous sommes favorables à une médiation, ce qu'on appelle la médiation conventionnelle, c'est-à-dire avant la saisine du Conseil, et que si, effectivement, les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, à ce moment-là, elles saisissent le Conseil de Prud'homme. Mmh. Mais nous ne sommes pas du tout favorables à une médiation judiciaire.
Gilbert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Blois. Soyez le bienvenu.
Voilà, je téléphone pour un autre champ réglementaire, celui d'administration, où cela se passe en commission, les commissions qui sont donc à huis clos, et où on peut très bien regarder les faits et vous licencier pour insuffisance professionnelle, par exemple, comme je l'ai été, sans que, par exemple, je suis enseignant, ne soit regardé les résultats aux examens. Mmh. Alors que l'administration sait qu'ils sont au moins égaux à ceux des autres collègues. Et là, il n'y a aucun recours possible, puisqu'à partir du moment où la démarche est légale, enfin réglementaire, les tribunaux administratifs, ils peuvent que la valider. Donc, un fonctionnaire est à la merci des allégations tenues par son inspecteur et donc de sa hiérarchie. Mmh. Point final.
Maud Beckers, merci Gilbert.
Oui, alors ce monsieur malheureusement, visiblement relève, malheureusement pour lui, vu son expérience, relève d'autres juridictions que celles du Conseil de Prud'homme, donc du tribunal administratif, où il y a des procédures en effet qui sont particulières et qui sont différentes du droit privé. Donc je ne peux pas vraiment l'orienter et confirmer son désarroi, puisque c'est vraiment des procédures totalement différentes.
Mmh. Rémi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Montpellier, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Oui, écoutez, moi je voulais poser le problème du principe même du plafonnement des indemnités au regard de ma propre expérience. Mmh. Je suis un ancien confrère, Nicolas, et j'ai été licencié dans des conditions absolument abracadabrantes dans un grand journal du Midi, au moment où il a été pris en main par Le Monde, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et à la suite de ça, je suis parti dans un combat que je résume très brièvement en vous disant qu'il y a eu deux arrêts de cassation, quatre arrêts de cour d'appel, de la justice administrative, enfin tout ce qu'on veut. Mais le final, c'est que j'ai obtenu des indemnités d'une part à la commission arbitrale des journalistes, j'avais 32 ans de maison, j'ai obtenu 3 ans et quelques de... Et au prud'homme, et par la voie prud'homale, j'ai obtenu plus de 3 ans de... près de 4 ans d'indemnités au total.
Donc 4 plus 3, 7.
Après 10 ans de combat. Hein. Pratiquement 7... un peu plus de 7 années au total, hein, en totalisant les dommages et intérêts, tout ce qu'on veut. Hein. Mais enfin, bon, les indemnités, 7 ans. Je sais que maintenant, donc, avec la loi Macron, il est hors de question que je puisse obtenir ça. Or, je pense que ce n'était que justice que j'ai obtenu après un très très long combat et une bagarre très très très... J'ai obtenu
épique.
La justice d'un licenciement aberrant, d'une folie qui avait saisi une hubris, qui avait saisi une direction à un moment donné.
Ben écoutez, merci Rémi pour ce témoignage et sur la question donc que vous poser du plafonnement des indemnités. Maude Beckers, Michel
oui,
André.
Oui, alors déjà une petite remarque liminaire. Il est extrêmement rare d'obtenir cette année de salaire au Conseil de Prud'homme. Je ne sais pas par quelle procédure est passé monsieur, mais c'est quand même des
journalistes, disait
Oui, mais enfin bon, ça me semble être extrêmement important. En tout état de cause, le plafonnement des indemnités n'est pas passé, hein, finalement, dans la réforme Macron, donc ça ne sera pas d'actualité. C'était une extrêmement une extrême mauvaise idée, puisque cela allait à l'encontre d'un principe qui est extrêmement important, qui est celui de la réparation intégrale du préjudice. Mmh. C'est-à-dire qu'on vous disait, en fonction uniquement de l'ancienneté du salarié, il aura tant de mois de salaire, le plafonnement étant à 15 mois de salaire pour les personnes qui avaient plus de 20 ans d'ancienneté, ce qui est une aberration juridique, puisque le principe est vraiment qu'un salarié, en fonction de sa situation, doit obtenir réparation. Et deux personnes sont dans une situation totalement différente. Par exemple, lorsque l'une a été licenciée, a retrouvé un emploi immédiatement, ou l'une va retrouver un emploi quelques années plus tard et dans une situation familiale qui va le jeter vraiment dans une situation de précarité. Or là, seule l'ancienneté comptait, et évidemment, c'était une grosse problématique, étant précisé, et c'est extrêmement important que les auditeurs le comprennent, qu'il s'agissait d'indemnités, non pas de licenciement, mais de réparation d'un licenciement abusif. C'est-à-dire qu'on disait « des employeurs violent la loi » de façon consciente, et rassurez-vous, chers employeurs, vous ne serez pas condamnés, quoi qu'il arrive, à plus de 15 mois de salaire, ce qui est extrêmement grave en termes de communication sur l'importance de respecter la loi du travail.
Allez, je la prends dans ma voix. Une dernière question de Jean-Pierre. Combien y a-t-il d'affaires demandées par les employés? Est-ce que les employés gagnent le plus souvent, ou est-ce les employeurs, Michel André?
Eh bien, écoutez, les statistiques démontrent qu'il y a 60% de condamnation des entreprises et 40% de déboutés.
Alors, juste une petite réflexion pour dire qu'il est normal que ce soit les salariés qui gagnent plus que les employeurs. Pourquoi ? Parce que les dossiers sont obligatoirement triés en amont. Quand on va au conseil de prud'homme, c'est qu'un salarié s'est fait conseiller et qu'il sait que son dossier peut obtenir satisfaction. Ce qui explique cette différence, en effet, 60%-40%.
C'est une bonne chose, dernière question, Michel André, que le plafonnement des indemnités ait disparu de la loi Macron ?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, parce que lorsqu'on a entendu ce qu'a dit votre l'auditeur, où il a gagné 7 années de salaire, c'est scandaleux. Je connais dans un autre conseil, 8 ans. Et mettez-vous à la place des chefs d'entreprise qui ne savent absolument pas, lorsqu'il y a une saisine de conseil, à quelle somme ils vont être condamnés. Or, le plafonnement est normal. Et je dirais, en plus, que...
Une vie de fidélité à une entreprise, ça peut valoir quelques années, non ?
Oui, mais attendez, ça peut peut-être valoir quelques années, peut-être, je ne sais pas. Mais il est normal que le chef d'entreprise sache où il va, jusqu'où il va.
Mais quand il viole la loi, il n'a pas besoin d'être rassuré, monsieur le président, je suis désolé. Quelqu'un qui viole la loi, un délinquant, ne le rassure pas en avance en disant « tu vas voler dans le magasin et t'en fais pas, tu paieras tant de dommages intérêts maximum à la victime de magasin ». Il ne sait pas à l'avance combien il va payer de dommages intérêts. Quelqu'un qui viole la loi, il n'a pas à être rassuré en amont.
Michel André.
Aujourd'hui, je disais, dans 60% des cas, donc les entreprises sont condamnées. Une très grande majorité de salariés font un recours devant la cour d'appel, bien que gagnant devant le conseil de prud'homme, pour gagner plus, parce que les cours d'appel accordent plus, condamnent plus les employeurs que les conseils de prud'homme.
Maud Beckers, Michel André, merci à tous les deux. Maud Beckers, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Michel André, président du conseil de prud'homme, des prud'hommes de Nanterre, collège employeur. Merci, amis auditeurs de France Inter. Le journal à suivre, puis Philippe Collin, l'œil du tigre.